Chapitre 8. Première partie de la méthode. L'idée fictive. Commençons par la première partie de la méthode qui consiste, comme nous l'avons dit, à distinguer, à séparer l'idée vraie de toutes les autres perceptions et à en tenir l'esprit écarté de peur qu'il ne confonde les idées fausses, les idées fictives, les idées douteuses avec les idées vraies. J'ai dessein de m'étendre longuement sur ce point. C'est que je veux retenir longtemps l'esprit des lecteurs dans la considération d'une chose aussi nécessaire. C'est encore qu'il est beaucoup d'hommes qui doutent même des idées vraies parce qu'ils n'ont jamais fait attention à la différence qui distingue la perception vraie de toutes les autres perceptions. Ils ressemblent à des hommes qui, pendant qu'ils veillaient, ne doutaient point qu'ils ne veillassent, mais qui, s'étant imaginé une fois en songe, comme cela arrive, qu'ils veillaient, et ayant reconnu ensuite leur erreur, se prennent à douter même des objets de la veille, ce qui n'aurait pas lieu s'ils savaient distinguer le sommeil de la veille. J'avertis en passant que je n'expliquerai pas ici l'essence de chaque perception ni sa cause immédiate. Cela concerne la philosophie. Je me bornerai à ce qu'exige la méthode, c'est-à-dire au caractère des perceptions fictives, fausses et douteuses, et aux moyens de nous en délivrer. Prenons pour premier objet de nos recherches l'idée fictive. Toute perception a pour objet soit une chose considérée en tant qu'elle existe, soit seulement l'essence d'une chose. Mais, comme la fiction ne s'applique guère qu'aux choses considérées en tant qu'elles existent, c'est de ce genre de perception que je parlerai d'abord. Je veux dire celle où l'on feint l'existence d'un objet, et où l'objet ainsi imaginé est compris ou supposé compris par l'entendement. Par exemple, je feins que Pierre, que je connais, s'en va chez lui, vient me voir, et autre chose pareille. À quoi se rapporte une telle idée? Elle se rapporte aux choses possibles et non aux choses nécessaires ou aux choses impossibles. Or, j'appelle impossible une chose dont la nature est telle qu'il implique contradiction qu'elle existe. Nécessaire, celle dont la nature est telle qu'il implique contradiction qu'elle n'existe pas. Possible, celle dont l'existence est telle que, par sa nature, il n'implique contradiction ni qu'elle existe ni qu'elle n'existe pas. Dans ce dernier cas, la nécessité ou l'impossibilité de l'existence de la chose dépend de causes qui nous sont inconnues tout le temps que nous feignons qu'elle existe. Mais si la nécessité ou l'impossibilité de son existence, laquelle dépend de causes étrangères, nous était connue, il ne serait en notre pouvoir de rien feindre en ce qui la concerne. D'où il suit que si l'on nous accordait, par hypothèse, qu'il existe quelque Dieu ou quelque être omniscient, il ne serait pas en son pouvoir de rien feindre. Car, en ce qui me touche, dès que je sais que j'existe, je ne puis plus feindre que j'existe ou que je n'existe pas. De même, je ne puis feindre un éléphant qui passerait par le trou d'une aiguille. Je ne puis non plus, dès que je connais la nature de Dieu, feindre qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Il faut en dire autant de la chimère dont la nature est telle qu'il implique contradiction qu'elle existe. De tout cela ressort avec évidence cette proposition déjà énoncée, que la fiction ne saurait atteindre jusqu'aux vérités éternelles. Mais avant d'aller plus loin, il faut remarquer en passant que la différence qui existe entre l'essence d'une chose et l'essence d'une autre chose est la même que celle qui se rencontre entre l'actualité ou l'existence de l'une et l'actualité ou l'existence de l'autre. Tellement que si nous voulions concevoir l'existence d'Adam, par exemple, simplement par le moyen de l'existence en général, ce serait absolument la même chose que si, pour concevoir son essence, nous remontions à la nature de l'être et que nous définissions Adam, ce qui est. Ainsi, plus l'existence est conçue généralement, plus elle est conçue confusément et plus facilement elle peut être attribuée à un objet quelconque. Au contraire, dès que nous concevons l'existence plus particulièrement, nous la comprenons plus clairement. Et il est aussi plus difficile de l'attribuer fictivement à quelque chose si ce n'est à l'une de celles que nous ne rapportons pas à l'ordre et l'enchaînement de la nature. Cela méritait d'être remarqué. C'est ici le lieu de considérer les choses que nous appelons d'ordinaire des fictions, bien que nous comprenions clairement qu'elles n'existent pas de la façon dont nous les imaginons. Par exemple, je sais que la Terre est ronde, mais rien ne m'empêche de dire à quelqu'un que la Terre est la moitié d'un globe et qu'elle ressemble à la moitié d'une pomme sur une assiette. Ou bien que le Soleil tourne autour de la Terre et autre chose semblable. Réfléchissons-y et nous ne verrons rien dans tout cela qui ne soit parfaitement d'accord avec ce que nous avons déjà dit. Il suffit que nous remarquions, d'abord, que nous avons pu nous tromper et avoir maintenant conscience de nos erreurs. Et ensuite, qu'il nous est permis de feindre que les autres sont dans la même erreur que nous ou peuvent, comme nous, y tomber. Nous pouvons, dis-je, feindre cela tant que nous n'y voyons pas d'impossibilité. Lors donc que je dis à quelqu'un que la Terre n'est pas ronde, etc., je ne fais autre chose que rappeler en ma mémoire une erreur qui a peut-être été la mienne ou dans laquelle j'ai pu tomber, et feindre ensuite ou penser que celui à qui je parle est encore ou peut tomber dans la même erreur. Je puis feindre cela, comme je l'ai dit, tant que je n'aperçois ni impossibilité ni nécessité. Si je voyais clairement l'une ou l'autre, je ne pourrais rien feindre, et il faudrait dire simplement que je me suis efforcé de feindre quelque chose. Il nous reste à parler de certaines suppositions que l'on fait dans les problèmes et qui parfois sont impossibles. Par exemple, quand on dit « supposons que cette chandelle qui brûle ne brûle pas » ou bien « supposons qu'elle brûle dans un espace imaginaire ou dans un lieu où ne se trouve aucun corps ». Nous faisons toutes sortes de suppositions de ce genre, bien qu'en définitive nous en comprenions clairement l'impossibilité. Mais dans ce cas, il n'y a pas fiction, car dans le premier exemple, je ne fais autre chose que rappeler à ma mémoire une autre chandelle qui ne brûle pas, ou bien je conçois cette même chandelle sans flamme, et ce que je pense de cette autre chandelle, je le comprends de même de la première tant que je ne fais pas attention à la flamme. Dans le second exemple, je ne fais encore autre chose que retirer ma pensée de tous les corps environnants et appliquer mon esprit tout entier à la considération de cette chandelle, prise uniquement en elle-même. Et j'en conclus que cette chandelle n'a plus à redouter aucune cause de destruction, de telle sorte que, si elle n'était environnée de corps étrangers, et la chandelle et la flamme demeureraient immuablement les mêmes et autres choses semblables. Il n'y a donc point là de fiction, mais de véritables et pures assertions. Arrivons aux fictions qui concernent les essences, soit seules, soit mêlées de quelque actualité ou existence. Et ce qu'il importe surtout de considérer, c'est que moins l'esprit comprend, tout en percevant beaucoup, plus grande est la faculté qu'il a de feindre, et plus il comprend, plus cette faculté diminue. Comme nous avons vu plus haut, par exemple, que nous ne pouvions, tant que nous pensons, feindre que nous pensons à la fois et ne pensons pas, de même, lorsque la nature du corps nous est connue, nous ne pouvons feindre une mouche infinie. Ou bien, lorsque la nature de l'âme nous est connue, nous ne pouvons la feindre carrée, bien que nous puissions énoncer toutes ces choses. Mais, comme il a été dit, moins les hommes connaissent la nature, et plus il est en leur pouvoir de feindre mille choses. Des arbres qui parlent, des hommes qui se métamorphosent soudain en pierre, en fontaine, des spectres qui apparaissent dans des miroirs, rien qui devient quelque chose, et jusqu'aux dieux prenant la figure des bêtes ou des hommes et une infinité de choses du même genre. Mais il est des gens qui croient que la fiction est limitée par la fiction et non par l'intelligence. C'est-à-dire qu'après avoir feint une chose et avoir affirmé, par un acte libre de la volonté, l'existence de cette chose, déterminée d'une certaine manière dans la nature, il ne nous est plus possible de la concevoir autrement. Par exemple, après avoir feint, pour parler leur langage, que la nature du corps est telle ou telle, il ne m'est plus permis de feindre une mouche infinie. Après avoir feint l'essence de l'âme, il ne m'est plus permis d'en faire un carré, etc. Cela a besoin d'être examiné. D'abord, ou bien ils nient, ou bien ils accordent que nous pouvons comprendre quelque chose. L'accordent-ils, ce qu'ils disent de la fiction, ils devront nécessairement le dire aussi de l'intelligence. Le nient-ils ? Voyons donc, nous qui savons que nous savons quelque chose, ce qu'ils disent. Or, voici ce qu'ils disent. L'âme est capable de sentir et de percevoir de plusieurs manières, non pas elle-même, non pas les choses qui existent, mais seulement les choses qui ne sont ni en elle-même ni ailleurs. En un mot, l'âme, par sa seule vertu, peut créer des sensations, des idées sans rapport avec les choses, à ce point qu'il la considère presque comme un dieu. Ils disent donc que notre âme possède une telle liberté qu'elle a le pouvoir et de nous contraindre et de se contraindre elle-même, et de contraindre jusqu'à sa liberté elle-même. En effet, lorsque l'âme a faim quelque chose et qu'elle a donné son assentiment à cette fiction, il ne lui est plus possible de se représenter ou de feindre la même chose d'une manière différente. Et en outre, elle se trouve condamnée à se représenter toute chose de façon qu'elle soit en accord avec la fiction primitive. C'est ainsi que nos adversaires se trouvent obligés, par leur propre fiction, d'accepter toutes les absurdités qu'on vient d'énumérer et que nous ne prendrons pas la peine de combattre par des démonstrations. Nous abandonnerons l'erreur à son délire, mais nous aurons soin de recueillir de cette argumentation quelques vérités qui importent à notre objet. C'est à savoir que si l'esprit applique son attention à une chose feinte et fausse de sa nature, pour la considérer, la comprendre et en déduire régulièrement les vérités qu'on peut en inférer, il lui sera facile de mettre à découvert sa fausseté. Au contraire, que l'idée feinte soit vraie de sa nature et que l'esprit s'y applique pour la comprendre et en déduire régulièrement les vérités qui en découlent, il procédera heureusement de déduction en déduction, sans que la chaîne se rompe, à peu près comme nous avons vu tout à l'heure qu'il mettait aussitôt en pleine lumière l'absurdité de la fiction fausse et de ses conséquences. Nous n'avons donc pas à craindre de feindre une chose du moment que nous en avons une perception claire et distincte. Car, qu'il nous arrive de dire que des hommes se métamorphosent subitement en bêtes, c'est là une proposition très générale, et si générale que nous n'avons dans l'esprit aucune conception, aucune idée, aucun rapport précis d'un sujet à un prédicat. Autrement, nous apercevrions en même temps et le moyen et la cause de ce phénomène. De plus, nous ne faisons guère attention à la nature du sujet et du prédicat. Or, il suffit que l'idée qui sert de point de départ ne soit pas une idée fictive et que toutes les autres idées en soient déduites pour réprimer aussitôt notre penchant à feindre. Ensuite, toute idée fictive n'étant ni claire ni distincte, mais seulement confuse, et toute confusion venant de ce que l'esprit ne connaît qu'en partie une chose qui est un tout indivisible ou qui est composée de plusieurs parties, et de ce qu'il ne distingue pas le connu de l'inconnu, et en outre de ce qu'il porte son attention, tout ensemble et sans rien distinguer, sur toutes les choses qui sont contenues dans un autre, il s'ensuit, en premier lieu, que si nous avons l'idée d'une chose parfaitement simple, cette idée ne pourra pas ne pas être claire et distincte. Car cette chose ne saurait être connue en partie. Elle sera connue tout entière ou point du tout. Il s'ensuit, en second lieu, que si nous divisons en ces parties simples une chose composée et que nous attachions séparément notre attention sur chacune de ces parties, toute confusion se dissipera aussitôt. Il s'ensuit, en troisième lieu, que nulle fiction ne peut être simple, mais qu'elle est toujours composée d'idées diverses, confuses, empruntées à des sujets divers et à des actions diverses qui existent dans la nature. Ou mieux, elle est le résultat de l'attention embrassant ensemble, sans aucun assentiment de l'esprit, toutes ces diverses idées. Car une fiction qui serait simple serait claire et distincte, par conséquent vraie. Et une fiction qui ne serait que l'assemblage d'idées distinctes serait claire et distincte, par conséquent vraie. Par exemple, dès que nous connaissons la nature du cercle et du carré, il ne nous est plus possible de mêler ensemble ces deux figures et d'imaginer un cercle carré non plus qu'une âme carrée et autre chose semblable. Concluons rapidement et montrons en résumant que nous n'avons nullement à craindre de confondre ce qui n'est qu'une fiction avec les idées vraies. Pour le premier genre de fiction dont nous avons parlé, celle où la chose est clairement conçue, Nous avons vu que si l'existence de cette chose nous est donnée comme une vérité éternelle, elle est par là même inaccessible à la fiction. Si l'existence de la chose conçue n'est pas une vérité éternelle, il faut seulement comparer son existence à son essence et considérer l'ordre de la nature. Dans le second genre de fiction, que nous avons dit être le résultat de l'attention enveloppant sans l'assentiment de l'esprit différentes idées confuses empruntées à divers objets et diverses actions de la nature, nous avons vu que nous pouvions feindre une chose absolument simple et qu'il en est de même d'une chose composée, pourvu que nous attachions notre attention aux éléments simples qui la constituent. Bien plus, il n'est pas même en notre pouvoir de feindre quelque action qui se rapporterait à ces objets et qui ne serait pas vraie, car nous serions obligés de considérer en même temps les causes et les motifs de cette action.